Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur le Morning Live, il est 10h. Le sujet qu'on va traiter date d'il y a 30 ans maintenant, il s'agit de la question suivante. Y a-t-il une ségrégation sociale dans les quartiers populaires? Pour s'y faire, nous avons invité un étudiant en droit de l'université Paris 2 qui est membre d'une association qui s'appelle AFEV. Cette association à but non lucratif qui cherche à lutter contre les inégalités sociales liées à la classe sociale. Bonjour Monsieur Arène.
Bonjour Madame.
Et face à cet étudiant, nous retrouvons un prof de philosophie dans un lycée éligible de l'éducation prioritaire qui pense le contraire. Bonjour, Monsieur Jaël.
Bonjour à vous.
Alors, qu'en pensez-vous, Monsieur Ariane, de ce sujet?
Alors, je vais entamer le débat avec un document qui m'a interpellé dans un manuel de lycée, qui vient du ministère de l'Éducation nationale, qui montrait que 39% des élèves résidant en quartier prioritaire dans le secteur privé viennent de classes défavorisées. Alors que dans le secteur public, 63% des élèves résidant en quartier prioritaire sont issus de la même classe. Cela représente la majorité des élèves et aussi que les classes défavorisées ont tendance à résider dans des quartiers populaires, tandis que les plus aisés se trouvent en dehors des quartiers populaires. Cette différenciation met en lumière le fait qu'il y ait une réelle ségrégation entre les élèves en fonction de leur classe sociale entre 2015 et 2016. On rappelle aussi que les catégories socio-professionnelles des parents présentent des avantages sociaux, tels que le niveau d'instruction, le niveau de ressources, les compétences scolaires des parents, mais aussi la position dans la hiérarchie des lieux de résidence, qui donne des atouts scolaires aux élèves issus de milieux aisés. Or, que les élèves dans le milieu défavorisé ne les possèdent pas nécessairement.
D'accord, Monsieur Ariane, ceci est votre avis sur ce sujet. Mais Monsieur Jalal, que pensez-vous de ce sujet?
Alors, je ne suis pas d'accord avec l'opinion de Monsieur Ariane. Or, dans les quartiers populaires, l'État dépense beaucoup plus d'argent pour créer des dispositifs favorisant les élèves dans les quartiers populaires, notamment les ZEP, qui aident les étudiants à mieux s'intégrer au sein de la société et poursuivre leurs études et ainsi trouver un travail. D'ailleurs, l'Institut d'études politiques de Paris a proposé des conventions d'éducation prioritaire, qui est une belle initiative pour favoriser les élèves de ces quartiers populaires.
D'accord, Monsieur Jaël. Selon vous, les aides de l'État suffisent à diminuer les ségrégations sociales. Mais Monsieur Ariane n'a pas l'air d'être tout à fait d'accord.
Effectivement, je ne suis pas d'accord, car selon une étude de l'INSEE encore, en 2018, on remarque que parmi les enfants de cadres et de professions intermédiaires, seulement 6% ne possèdent pas le bac, ni le CAP, alors que parmi les enfants, des employés et des ouvriers, ce pourcentage est triplé, il atteint environ 18%. Donc, l'État n'a pas réussi forcément à résoudre le problème de ségrégation dans les quartiers populaires. En conséquence, cela engendre une haute probabilité de se retrouver au chômage, par exemple. Donc, selon une étude de l'INSEE sur le taux de chômage en fonction du diplôme en 2020, on remarque que presque 48% des élèves sortant de leur formation depuis 1 à 4 ans, sans ayant de bac, connaissent une situation de chômage, ce qui dégrade directement le lien social. Le chômage est très mal vu dans notre société et ça peut causer une solitude, voire même une dépression.
D'accord. Qu'est-ce que vous pensez de ce que M. Ariane vient de dire, M. Jalal?
Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord, car il existe différents instants où l'individu vivant dans les quartiers populaires connaît un renforcement des liens sociaux, tels que les associations qui aident les élèves dans les quartiers populaires, votre association par exemple. On mentionne aussi les différentes relations intersociales que l'individu peut avoir de nos jours. Les moyens de communication ont rendu ces dernières moins compliquées et favorisant grâce notamment aux réseaux sociaux. Le milieu de travail peut être également considéré comme un lieu d'échange. Cette mixité permet de montrer qu'il n'existe pas véritablement de ségrégation entre les individus issus de quartiers populaires et ceux résidant hors de ces derniers.
Donc, selon vos arguments, il existe une ségrégation sociale dans les quartiers populaires, mais cependant, les diverses institutions et les individus luttent contre la ségrégation pour vivre dans une société meilleure. Alors, merci à vous, M. Ariane et M. Jalab, pour ce débat très intéressant sur la socialité et sur les quartiers populaires. Pour les personnes qui voudraient intervenir dans notre émission, n'hésitez pas à contacter sur morninglac.fr. Et n'oubliez pas, rendez-vous demain à la même heure pour un autre débat. À très vite.